Alors, Yonathan, tu poses la question.
Quelle est l'importance d'habiter en RS Israël?
Et M. Guez aussi voulait rajouter.
Et moi, j'ai complété en demandant est-ce que c'est véritablement un sroud de vivre en Israël et est-ce qu'il y a un sroud de vivre en Israël?
Est-ce qu'il y a un sroud, donc est-ce qu'il y a un mérite d'habiter la terre d'Israël? Alors, j'aimerais qu'on m'amène ces deux livres, c'est Maïmonide et la Gemara dans Ktubot. En passant, on m'a demandé aussi de parler de Netour et Karta. Peut-être on va passer aussi un peu en passant aussi, savoir aussi avec cela. Alors, commençons par Netour et Karta, et comme ça je glisserai sur le sujet de l'habité de la terre d'Israël. Donc il y a un groupe, il y a deux groupes qui sont très proches de Hasidim. Un qui s'appelle Netour et Karta, c'est une traduction de l'araméen, les gardiens de la cité. Et un autre groupe de chassidim qui est très proche s'appelle Satmar. Satmar, qui est une chassidoute prestigieuse, Rabbi Yoel de Satmar, Zechat Sadek Lebracha, un ange. Puis on voit des photos de lui, il avait une tête comme un ange. Qui ne sont pas d'accord avec le fait que le peuple juif retourne en terre d'Israël. Car on a une Gemara dans Ktubot qui dit que Dieu a conjuré le peuple d'Israël de ne pas monter en Israël Bechoma. Bechoma, littéralement en muraille. Les commentateurs disent c'est quoi? C'est-à-dire contre le vouloir des nations. À quoi on peut leur opposer? L'État d'Israël n'a pas été fondé contre le vouloir des nations. On a en 1917, je me souviens bien, il y a eu la déclaration Balfour, qui évoque que Sa Majesté la Reine d'Angleterre voit d'un œil favorable le retour du peuple d'Israël sur sa terre et la création d'un foyer juif pour les juifs en Palestine. Et en 1947, donc, l'ONU a voté la création de l'État d'Israël. Donc ce n'est pas contre le vouloir des nations. Deuxièmement, on voit que le Gaon de Vilna déjà il y a 3 siècles, et qui est plus grand que le Gaon de Vilna? Il n'y en a pas beaucoup, s'il y en a. Il a déjà dit que c'était une époque révolue. Aujourd'hui, cette conjuration de Dieu, elle est désuète, terminée. Ça a eu été, c'était à l'époque. Aujourd'hui, on doit remonter en terre d'Israël. Lui-même, le Gaon, a tenté de venir, il n'est pas réussi, mais ses élèves, le Rav Mshiklov et d'autres, sont venus et ont été, c'est eux qui ont pratiqué la première Aliyah. D'accord ? On croit que l'Aliyah, c'est un mouvement moderne, socialiste, laïque. Non, à la base, c'est complètement religieux.
Qu'est-ce qui n'est pas réussi, le Gaon de Vilna ?
Le Gaon de Vilna, s'il serait arrivé, il était Mashiach ben Yosef. Alors il a vu que, bon, il serait venu, il y a beaucoup des fois où le Mashiach pouvait venir, mais s'il se dévoilait, alors il y a un livre, le Rabbi Moshe Cordovero, qui dit que si à son époque le Mashiach se dévoilait, c'était que 7000 personnes qui l'auraient reçu. C'est-à-dire qu'il y a une facture de l'exil. Et si on veut trop accélérer, alors, ok, la fin de l'exil a lieu, mais un peu ratatiné. La souffrance de l'exil, elle fait un très très grand tikkun.
Mais ça revient même qu'il y ait 7000 ou 600 000.
Pas tout à fait, pas tout à fait, pas tout à fait. C'est vrai que la Goula est là, dans les deux cas. Mais c'est un peu triste que le peuple d'Israël soit éliminé et le Mashiach vient pour les rescaper. C'est pas joli. Il n'y a pas de Kiddush Hashem. Il est beaucoup plus... Enfin, nous ne pouvons pas nous dire c'est bien ou pas bien que Dieu fasse ainsi ou ainsi. En tout cas, on voit que Dieu a préféré pour le moment nous laisser en galoute. Et on espère bientôt le Mashiach avec le maximum de juifs qui pourront le recevoir.
Une volonté, parce que dans Vilna, il aurait très bien pu venir.
Tu vois que non. Tu vois que du ciel, on l'a empêché.
On l'a empêché, c'est pas lui qui
s'est fait. Non, on l'a empêché. On l'a empêché.
Du point vue terrestre, c'est quoi?
C'est du point vue terrestre.
C'est on sait qu'Hachem n'a pas voulu, mais qu'est-ce qui a empêché le point vue terrestre?
L'histoire ne le raconte pas. C'est que le Gaon, il est parti en route et il est revenu. L'histoire est même plus, elle est encore plus belle, parce que le Gaon de Vilna a envoyé un messager à un certain Rab Leib, dans une ville, avec une lettre, un recommandé du Gaon de Vilna. C'est pas n'importe quoi. Alors le messager arrive dans cette ville et demande où est le Rab Leib. On dit Rab Leib, on ne connaît pas. Bon, il cherche, il va voir le rabbin de la ville, on ne connaît pas un rabbin, le Gaon de Vilna m'a envoyé le Gaon de Vilna pour le rabbin Leib, on ne connaît pas un rabbin Leib. Il n'y a personne qui s'appelle Leib dans tout le village, dans toute la ville. Il y a le Belé, un type, il n'est pas tout à fait, un très simple qui s'occupe de brûler l'alcool là-bas. On brûle les distilleries d'alcool. Bon, le délégué, le messager, dit bon, je ne peux rien aller le voir. Il va le voir et il comprend que c'est lui. C'est vrai que peut-être il est simple, mais en tout cas, on voit sur lui une douche à une sainteté. Alors, il transmet en tremblant la lettre du Gordon de Vilna. Lui, il voit, il prend, il ouvre, il lit, il prend papier, il jette au feu. Dites à celui qui vous a envoyé que je ne pourrais pas venir, mais que je pense que lui non plus ne réussira pas dans sa mission. L'autre, le messager demande, donnez-moi au moins un message de votre main écrite. Inutile, il comprendra, dites-lui ce que je vous ai dit, ça suffira. Voilà. Comme quoi il y a des grands tzadikim qui sont cachés, est-ce que c'est le Mashiach, est-ce que c'est pas le Mashiach, je ne sais pas, l'histoire ne raconte pas. Le gars est parti, et effectivement il n'a pas réussi. Pourquoi? On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, pour revenir à notre sujet, le monde orthodoxe pense qu'il faut monter en terre d'Israël, et aucun juif, même Satmar ou Netour Karta, ne peut remettre en question la mitzvah d'habiter la terre d'Israël. En tant qu'homme particulier, peut-être qu'il y a un mouvement comme ça qui aille contre le vouloir des nations, ça, on peut-être condamner. Et encore, on voit la réalité n'est pas comme ça. Nous ne sommes pas partis contre le vouloir des nations. Si aujourd'hui, on est en combat, c'est parce que les Arabes nous ont attaqués, donc on est en légitime défense, etc. Mais qu'il n'y a pas de mitzvah depuis la terre d'Israël, c'est complètement non-juif, archi-faux. Et bon, il y a une marloquette entre le Ramban, Nachmanide, et le Rambam, Maïmonide. Est-ce qu'il y a une mitzvah de la Torah, donc des 613 mitzvahs de la Torah, d'habiter la terre d'Israël? Maïmonide dit que non, c'est une mitzvah que des Rabbanan. Nachmanide dit que oui. Sur quoi la discussion? Sur un verset de la Torah qui dit Vorashtem et haaretz vishavtem ba. Vorashtem et haaretz, vous en chasserez les habitants et vous installerez sur cette terre. C'est donc écrit dans la Torah, c'est avant que le peuple d'Israël rentre en terre d'Israël, il y avait sept peuples, les Canéens, les Pharisiens, les Hittéens, etc. Donc une mitzvah que Josué va pratiquer, il leur a proposé trois solutions, ou vous vous rendez et vous devenez nos auxiliaires, ou vous évacuez, ou on fait la guerre. Et un peuple à évacuer, c'est le Girgashi, qui est allé en Tunisie. Et dans les écrits byzantins, des historiens byzantins, il y a un témoignage comme quoi ils ont en Tunisie, il y a une grande stèle qui s'appelle « Nous sommes le Girgashi qui avons été chassés par Josué bin Nun, fils de Nun, le brigand ». D'accord, comme c'est marqué sur les stèles, qu'aujourd'hui n'existe pas, mais il y a une source historique byzantine. Et ça correspond au Talmud de Jérusalem qui raconte cela. Le Talmud de Jérusalem dit qu'effectivement le Girgashi, il est parti. Les autres peuples restants ont fait la guerre, ont été éliminés par Josué. Alors, que dit le verset? Le verset dit, « Vorashtem et haaretz, vous en chasserez les habitants, vishavtem ba, et vous vous installerez. » Est-ce qu'il y a une mitzvah de s'installer? Oui ou non? On peut comprendre le texte de deux façons. Maïmonide va dire comme ça. Vous avez une mitzvah de chasser l'occupant, de chasser les peuples qui habitent ici, afin de vous installer. Il n'y a pas de mitzvah de s'installer. La mitzvah, elle est de chasser, pour s'installer. Mais ce n'est pas une mitzvah en soi de s'installer. Donc, d'après Maïmonide, il n'y a pas de loi de la Torah d'habiter la terre d'Israël. Les sept peuples, on parle de chasser. Non, on parle de chasser l'occupant, c'est une loi ponctuelle dans l'histoire, Josué qui rentre en terre d'Israël, c'est tout. Il n'y en a pas de mitzvah aujourd'hui de chasser les occupants palestiniens ou autre chose. Absolument pas, absolument pas.
C'est une mitzvah de chasser, il y a un kol sheken de s'installer. On peut chasser pour.
Chasser, c'est pour s'installer. Donc j'ai une mitzvah de chasser pour que je puisse. Dieu me dit, je t'ordonne de les chasser parce que sinon tu ne pourras jamais t'installer. Moi, mon but, c'est que tu t'installes. Mais je t'ai pas ordonné de t'installer. Je dis, je t'ordonne de chasser. Comme ça, tu pourras t'installer. Mais est-ce que j'ai une mitzvah, une ordonnance de Dieu de m'installer? Non.
Et si c'était uniquement ces peuples-là, tu veux dire que c'était qu'à l'époque?
Qu'à l'époque.
Aujourd'hui, de toute façon, chasser ou installer, il y a.
Attends. Ça, c'est d'après Maïmonide. Narmanide va dire, il y a deux mitzvot. Une de chasser, une de s'installer. Et s'installer, c'est ad aeternam. Pour toujours. Mitzvah d'habiter la terre d'Israël. Narmanide dira Parmi les 613 mitzvot de la Torah, il y a le mitzvah d'habiter la terre d'Israël. L'alakha n'est pas comme Nachmanide. L'alakha est tranchée comme Maïmonide. Mais, bien que, et là il faut bien souligner, bien qu'il n'y a pas le mitzvah de la Torah d'habiter la terre d'Israël, il y a le mitzvah des Rabbanan. Maïmonide, je vous le lis tout de suite. Donc c'est dans le livre de Shoftim. Livre de Shoftim. Les lois concernant les rois et leurs guerres. Chapitre 5. Alinéa 9. Assur la tête. Je lis Maïmonide, et ça c'est la lacha. D'accord? Donc il faut bien se mettre dans le crâne, que ce soit. Et Satmar ne peut ne pas être d'accord, ne peut pas ne pas être d'accord avec ça, ni Théoré Carta. Ils sont d'accord avec ça. Et il y a ici, à Jérusalem et à Bnei Brak, il y a des communautés florissantes de Satmar et Théoré Carta. Il faut bien se le dire. Ce sont des grands amoureux du peuple d'Israël. Simplement, bon, d'abord je vais dire ça, après je vais parler exactement qui, quoi, comment. Assur la tzet mer d'Israël. On n'a pas le droit de quitter la terre d'Israël, les chutsa, la haaretz, pour aller à l'étranger, les olam pour l'éternité. Aller faire du ski en Suisse, interdit. Aller un peu voir la Thaïlande, les tsunamis, interdit. Tourisme, pour tourisme, interdit. Ah, mais beaucoup de gens voient que quand même ils sont des religieux, eh bien ils ont un problème. Ils ont un problème. Aucune autorisation. Si ce n'est pour les raisons qu'on va évoquer maintenant. Et là, l'ilmod Torah, si c'est pour étudier la Torah, je veux dire, tu n'arrives pas à étudier ici, tu as un rabbin, avec lui t'accroches, les autres t'accrochent pas, tu peux quitter la Torah plus importante qu'habiter la terre d'Israël. Olisa Isha, tu as fait 200 shidouchim, tu n'as toujours rien trouvé à Jérusalem, on te dit, il y a une fille bien à Honolulu, tu vas à Honolulu. O la Tzimina Akum, ou pour sauver des juifs qui sont maltraités par des non-juifs, on peut aller quitter Israël pour les aider.
Ça peut être maltraité spirituellement dans la mesure où l'assimilation.
Tout ce qui est maltraité. Vers sur la Haaretz et reviendra en terre d'Israël. Tu fais ta mission, tu reviens. Vechen, de même, Yotze hu l'esrora. On peut sortir pour faire de l'argent. Aval, l'ishkon berchut salas, mais habiter l'étranger, assour. Si ce n'est. Chazak Shama Ra'av, s'il y a une famine qui sévit en terre d'Israël, au point où on voit que les prix vont doubler, il y a une inflation. C'est-à-dire, au niveau plus technique pour nous, plus actuel, quelqu'un qui ne s'arrange pas en terre d'Israël. Je viens, j'essaie de gagner ma vie, je ne m'en sors pas, je ne m'en sors pas. Alors quoi, je crève de faim? Non, tu prends un avion et tu quittes, c'est légitime. Pas besoin de venir ici essayer. Quelqu'un qui habite la France et qui sait qu'ici il arrivera, il n'aura rien, qui reste en France. Il est permis, aussi, comme ça a posé le Rabbi Yosef sur la base des cris du Moyen-Âge, on peut quitter Israël pour aller voir ses parents, Kibbout Avehem, et revenir. Pas rester là-bas, c'est Kibbout Avehem ad aeternam. Si les parents ont besoin de lui parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont vraiment, ils ne peuvent pas s'arranger sans lui, il est obligé de rester avec eux. Tant pis pour Israël.
Si de toute façon, il n'y aura rien ni en France ni en Israël.
S'il n'y aura rien ni là ni là, qui va en Israël, évident. S'il y a un danger de vie, un danger de mort, que ce soit une mort physique ou une mort spirituelle, on quitte Israël. Le Rav Shach a très souvent crié contre le mouvement anti-religieux israélien que s'ils vont mettre trop la pression, alors tous les juifs, on va quitter Israël. Il ne faut pas croire que. C'est le nec plus ultra habiter la terre d'Israël. C'est très important, comme on est en train de le voir, et on va continuer. Mais il y a un prix à tout. S'il n'y a plus d'Israël, on n'est plus juif parce qu'on est en Israël, mieux vaut rester. Le point de scission qu'il y a entre certains mouvements juifs religieux, ou qui s'appellent religieux, mais qui le sont moins, c'est une acquédise, il faut monter en terre d'Israël à tout prix. On lui dit, alors quoi? J'ai le choix maintenant. C'est un choix qui n'est pas hypothétique, des fois c'est vraiment un choix qui est réel. Est-ce qu'il préférera pour moi d'habiter la terre d'Israël, être Mechalel Shabbat, ou d'habiter Paris, mais je suis Shomer Shabbat? La réponse, elle est directe. Mieux vaut un milliard de fois plus habiter Paris, avec tout ce que ça comporte comme danger, etc., et physique et spirituel, mais t'es Shomer Shabbat, qu'Israël Mechalel Shabbat. Non seulement cela, si quelqu'un est Mechalel Shabbat, mieux vaut qu'il soit à Paris qu'ici. Pourquoi? Ici, t'es dans le palais du roi. Qu'est-ce que tu viens maintenant faire tes choses interdites aux yeux du roi, dans le sein des saints? Fiche le camp, va là-bas, Paris, ok, on ne te voit pas. Il faut comprendre sur quoi je me base. Il y a une mitzvah très grande depuis la terre d'Israël. Mais aussi grande qu'elle soit, elle reste une mitzvah des Rabbanan. Or, il y a une hiérarchie dans la Torah. Les mitzvot les moins importantes, les mitzvot des Rabbanan positives. Après, plus grave, des Rabbanan négatives. Je veux dire, c'est quoi, Rabbanan positives? Par exemple, habiter la terre d'Israël. D'accord? Mitzvah positive d'habiter. Porter un talit katan en coton. Pour les Sfaradim, c'est que des Rabbanan. Pardon? Lire la Megillah. Allumer les bougies de Hanouka. Ce sont toutes des lois positives. Des Rabbanan. Ensuite, négatif. Des Rabbanan. Négatif, qu'est-ce qu'on a par exemple? Ne pas mélanger, ne pas faire bouillir ensemble du poulet avec du lait. Le mouktsé à Shabbat. Toucher de l'argent, toucher un marteau, un stylo, des choses qui ne sont pas permises à toucher le jour du Shabbat, c'est interdit. Des Rabbanan. Faire le kiddush sur le vin. Le soir de Shabbat, sur le vin, c'est des Rabbanan. En parole pendant la prière, c'est de la Torah. Ça, c'est des Rabbanan. On passe après à un niveau qui est beaucoup plus grave. On parle maintenant des mitzvot qui sont de la Torah. C'est quoi la Torah? Qui sont marqués clairement dans la Torah. Alors là-bas, là, on a une autre hiérarchie. On a quatre niveaux de gravité. Comment se connaît ce niveau de gravité? On le connaît par rapport à la tshuva conséquente qu'on doit faire. Le niveau le moins grave, c'est mitzvot positif de la Torah. Mettez de filine. Porter un talit katan en laine, un talit galon en laine aussi, la souka, le chauffard, Rosh Hashanah, manger la matzah le soir de Pessah, etc. 248 mitzvot positives. Ensuite, loi négative. 365 lois négatives. Mais qui sont pas, on parle maintenant de la partie de ces 365 qui ne seront pas sanctionnées par le karet ou par la mort par le beddin. Alors qu'est-ce que c'est par exemple? Ne pas voler, ne pas manger du porc. Ne pas manger un animal qui n'a pas été égorgé comme il se doit, etc. Pour ne pas porter du chasse-nez. Toutes ces lois-là sont des lois négatives, mais ne sont pas sanctionnées par la mort du Bédine à l'époque du Temple il y a 2000 ans, ou par le Karet. Karet, c'est le retranchement de l'âme. Ensuite, troisième niveau, c'est les lois qui sont sanctionnées par le Karet, retranchement de l'âme, ou la mort du Bédine. Par exemple, toutes les lois d'interdiction, c'est toutes les relations sexuelles interdites. Sa femme, si elle est nida, elle n'a pas été encore au mikvé. La femme du prochain, bien sûr, même si elle était au mikvé. Manger ou boire du Yom Kippour, manger du pain, du Hametz à Pessah. Aller, nous sommes impurs aujourd'hui sur l'esplanade du temple, c'est interdit, c'est Yissour Karet. Certaines graisses animales, d'animaux cachers, c'est Helev, sont sanctionnées par le Karet. Le sang qui sort lorsqu'on a un animal, le premier jet qui sort, on en fait du boudin, je crois, en France, ça s'interdit par le karet, etc. Les morts du Bédin, Shabbat, transgresser Shabbat. Certaines relations sexuelles sont sanctionnées par la mort du Bédin. Tuer, sanctionné par la mort du Bédin. L'idolâtrie, sanctionnée par la mort du Bédin. Ce n'est pas actuel, c'était il y a plus de 2000 ans. À l'époque où il y avait le temple, il y avait le Sanhédrin, pendant une certaine époque. Alors, s'il y avait deux témoins qui venaient témoigner sur quelqu'un, qu'il a été averti et malgré tout, il a transgressé, alors on devait lui administrer la mort du Beddin. C'était très rare, ça arrivait une fois tous les 70 ans au maximum, mais encore, c'était le Sanhédrin qui faisait cela, était considéré comme un Sanhédrin, un tribunal rabbinique meurtrier, katlani, comme on dit en hébreu. C'était très très rare, mais néanmoins ça existait. Au niveau des morts du Bédine, il y a quatre niveaux. Je m'excuse d'en parler, mais la sanction va nous évoquer la gravité de la chose. Du plus grave au moins grave. Le plus grave, lapidation. Moins grave, brûler. Comment on brûle? C'est pas on met dans le feu, c'est beaucoup plus sympathique. On tire une écharpe de côté comme ça, très fort, et il ouvre la bouche, et on lui verse du plomb fondu dans le système digestif, et normalement il s'en sort pas. Pour qu'il ouvre la bouche, c'est tout. Plus par exemple, c'est une corde qui est recouverte d'une écharpe. La corde pour pas qu'il y ait une blessure. C'est pas joli. Tu tues, mais c'est marqué pour tuer. C'est avec Maradi comme ça. Tu tues, mais tu viens pas sauvagement. Bon, c'est un peu morbide, mais on voit que même dans les sanctions de mort, avec les sanctions capitales qui étaient pratiquées à l'époque, ce n'est plus actuel, je le souligne bien, on faisait en sorte d'honorer le mort. Par exemple, quand on le pendait, il ne fallait pas qu'il soit nu, beaucoup de choses quand même pour l'honneur quand même. Comme on faisait pour lapider, pas on jette des pierres comme cela, on attachait les bras, les mains dans le dos, et on jetait depuis une hauteur du deuxième étage. Et pas sur le côté, justement pour pas qu'il soit un peu démoli, comme ça, ou sur la face. Maintenant, s'il était mort, tant mieux, sinon, alors on roulait une grosse pierre sur lui. Bon, c'est passionnant, comme vous le voyez. Ça, c'était donc le plus grave, lapidation. Après, brûler. Troisièmement, c'est qu'il a, enfin, Hérec, tué avec l'épée. Comment on faisait, pour ceux que ça intéresse? Alors, on coupait la tête, tout bêtement. Et quatrièmement, étouffement. Étouffement. Maintenant, étouffement, par exemple, quelqu'un qui a relation avec une femme juive qui est mariée, alors sanctionné par l'étouffement. Hérec, quelqu'un qui a tué, on le tue avec l'épée. Brûler, quelqu'un qui a une relation, par exemple, une relation statueuse, une relation avec sa mère, alors on brûle. Et lapidation le plus grave, par exemple, idolâtrie ou transgresser Shabbat. Le quatrième niveau qui est plus haut, qui n'est même pas expié par la mort du Bedin, c'est Chilul Hashem. Chilul Hashem, c'est profaner le nom de Dieu. Faire une chose qui profane le nom de Dieu. On voit que Shabbat est parmi les choses les plus graves qu'il y a dans toute la Torah. Donc comment est-ce qu'on pourrait aller maintenant légitimer une mitzvah très grande, devenir en terre d'Israël, mais qui est somme toute dans la hiérarchie la plus basse, celle, c'est une mitzvah positive des Rabbanan, au prix de transgresser la plus grave qu'il y a dans la Torah, des plus graves, Chilul Shabbat. C'est absurde. Comme tu dis maintenant à quelqu'un, il est malade, il a son corps qui a arrêté, les poumons, et tu vas sauver. Puis tu vois qu'il y a le petit doigt qui saigne. Est-ce qu'il y a une mitzvah, maintenant, de mettre un sparadrap au petit doigt? Oui. Un petit doigt qui saigne, une mitzvah de mettre un sparadrap. Mais quand tu as le cœur qui a arrêté, les poumons qui ne respirent plus, tu n'occupes pas du petit doigt. Tu occupes toi de l'essentiel. Il y a l'essentiel, il y a l'accessoire. Alors, quelqu'un qui, maintenant, il est en France, il est Shomer Shabbat, il fait toute la Torah, il peut monter en Israël et s'arranger ici, mitzvah énorme de monter en terre d'Israël. D'abord, il y a moins de risques d'assimilation, c'est clair. Ensuite, c'est notre terre. Ensuite, on voit, c'est une terre qui est sainte. C'est notre racine, elle est là. Je vais continuer dans les paroles du Rambam.
Pour ce qui est, vous disiez que quand on a sa vie qui est en péril, on peut quitter Israël.
Bien sûr.
Quand on va arriver dans des matières de la remplie.
Alors, c'est ta question pour que tout le monde entende bien, comme ça. Il est certain que Pikuach nefesh dochetot de kol haTorah kula. S'il y a un danger de mort, ça repousse toute la Torah, à part trois interdits graves qui sont transgresser une interdiction sexuelle, une relation sexuelle interdite, faire de l'idolâtrie ou assassiner quelqu'un. Pour ces trois raisons, mieux vaut se faire tuer que de tuer. Mieux vaut se faire tuer que de transgresser un de ces trois interdits. Tous les autres interdits, y compris la terre d'Israël, s'il y a un danger qu'une vie juive soit son sang soit versé, on quitte la terre d'Israël. Il faut bien comprendre.
C'est un décret d'extermination des Juifs.
Alors, maintenant, ta question, elle est Gog ou Magog. Gog ou Magog, c'est marqué que un ennemi viendra du Nord, avec beaucoup de peuples, tous les peuples qui vont se réunir, en fait, mais ils sont dirigés par un peuple du Nord. Ça peut être à choix Liban, Syrie, Irak, Iran, Russie. Il semblerait que c'est l'Iran, d'après les textes. Il semblerait que c'est aussi très très prochain. D'accord? Parce que Ahmadinejad, j'imagine que sa bombe atomique, l'Amérique ou quelqu'un dans le coin va la faire sauter un de ses jours. Ok, j'imagine. Maintenant, imaginons que nous sommes Ahmadinejad. On a un rêve d'amener le 12e imam, c'est-à-dire le messie de l'islam qui va convertir tout le monde entier à l'islam. Et on a une arme fantastique, la bombe atomique, et on l'a pu. Qu'est-ce qu'on fait? On est chiite. Chiite, ce sont des gens qui sont prêts à se donner la mort pour Allah, pour Dieu. Alors, j'ai plus de bombe atomique, mais j'ai 80 millions de chiites. Qu'est-ce que je dis? On va sauver Jérusalem, libérer des sionistes. Et on part. À dos de d'âne et de chameau. Il y a 50 ans, ils étaient sous le Shah d'Iran. Ils n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Ahmadinejad, c'est quelqu'un qui est un peu dangereux. Hein? Donc il va exciter maintenant les foules et on part en avant. Ils auraient pu le faire, ils n'ont pas fait. Tu vois qu'il y a un moment où aujourd'hui, c'est certain qu'il y a ici un danger imminent. Maintenant, si c'est moi qui ai inventé ça, ok, mais la Gemara le dit. Je vais répéter souvent, je ne vais pas déranger quelqu'un maintenant, aller chercher. C'est dans le traité Sanhedrin, page 98, c'est marqué comme ça. Abir, Adir, Rabbi Yossi Ben Kisma. D'abord, ça y est, d'autres parties qui commencent comme ça. Les élèves de Rabbi Yossi Ben Kisma lui ont demandé. Ah, merci, Sanhedrin qui me tombe sous le. Minashamayim, comme on dit. Page 98, A, au bas de la page. Shalou Talminab et Rabbi Yosef Ben Kisma. Lui ont demandé les élèves, ses élèves à Rabbi Yosef Ben Kisma. Et Matai Ben David Ba. Quand vient le fils de David, le Mashiach? Question que nous tous aurions voulu poser à un rabbi qui le sait. Amar, il aurait répondu, Mitzirani, j'ai peur. Shema Tevakshu Mimeni Ot. J'ai peur de vous dévoiler. Vous me demanderez un signe pour vérifier ce que je dis est vrai ou pas. Amoulo, ils lui ont répondu, Elanou me vaccine mimcha hot. On ne demande pas que tu nous fasses un signe. Ça prend douni. Dis-nous, on fera confiance. Amar Lahem, il leur a dit, leur cheipol a charazé. Lorsque ce portail va tomber, Vibane, il sera reconstruit. Vipol, il va retomber. Vibane, il sera reconstruit. Vipol, il sera retombé. Vem explikin livnoto. On n'aura pas le temps de le reconstruire. H. Ben David, bah, et viendra le fils de David. Ce que ça veut dire, je l'ignore. Amour le rabbinou, ils lui ont dit, notre rave, tenons-nous hôte, donne-nous un signe. Amarlem, il leur a dit, velokach amartem linchen, atem vaksim meni hôte, vous ne m'avez pas dit que vous ne me demandez pas un signe, c'était ma condition. Amour le, ils lui ont répondu, afalpichan, oui, néanmoins. Allez. Amarlem, il leur a dit, imkach, si c'est vrai ce que je dis, yafrou mem arat parmias les dames, que les eaux de la source du Banias, c'est donc du nord du pays, soit changé en sang. Elles furent changées en sang. Ça, c'est juste en préambule, qu'on parle de l'époque messianique, tout ça. Mais Jacques Piderato, au moment où il allait mourir, à Marlem, il leur a dit, « Amiku, amikuli aroni, enfoncez profondément mon cercueil. » Il l'a enterré où? Rabbi Shimon Kisma, à 200 mètres de Rabbi Shimon Bar Yochai, à Méron. Une grotte, voilà, il est là-bas, profondément enterré. Pourquoi enterrer profondément? Car tu n'as pas de palmier en Babylonie, auquel tu n'as pas un cheval perse qui est attaché. Tu n'as pas de cercueil en terre d'Israël, dans lequel tu n'as pas un cheval med, c'est la Perse aussi, qui mange du foin. Voici le texte de la Gemara, assez opaque. Avant de commenter, faisons un peu des jeux politiques tout à fait amateurs. D'accord? Ça fait quelques années que je répète la même chose. On avait deux ennemis terribles. L'Iran, chiite, et Saddam Hussein, sunnite. Les deux font la guerre entre eux. Deux rois puissants. Des centaines de milliers de morts. Les gaz, tout y est passé. Nous, Baruch HaShem, on nous oubliait. L'Amérique, victorieusement, et je dis bêtement, vous allez comprendre pourquoi bêtement. C'est pas bête, parce que c'est bien qu'ils ont éliminé Saddam Hussein, mais à quel point les conséquences, et ça je le dis encore avant la guerre, ils viennent en Irak, éliminent Saddam Hussein, qui est un dictateur, qui tient son pays comme ça. Tout le monde est content. Et maintenant qu'on l'a pendu, qu'est-ce qui se passe? L'Iran chiite, ça fait... Pourquoi il part en guerre contre l'Irak? Le but, on le sait bien, le pétrole. On ne va pas dire maintenant aux troupes chiites, allez maintenant vous tuer pour le pétrole iranais, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on leur dit? Nous devons, nous, chiites, aller sauver nos frères qui sont sous tutelle sunnite. En Irak, il y a une majorité de la population, elle est chiite, sous tutelle d'une minorité sunnite. Saddam Hussein, elle était sunnite. Donc, les Iraniens disaient toujours à leurs soldats, partons en guerre, sauvez nos frères chiites. Maintenant, Saddam Hussein est mort. Avant de mourir, Il a dit attention à l'Iran. Il sait de quoi il parle. Déjà actuellement, l'Iran a ses ministres, des ministres délégués par l'Iran déjà dans le comité de direction de l'État irakien. Et dès que l'Irak va être faible, ce qui est le cas, parce que Saddam Hussein est mort, qu'est-ce qui va se passer? Je ne suis pas prophète, je ne suis pas idiot non plus. Ils vont rentrer en Iran. Et l'Iran va rentrer en Irak. On m'a dit la semaine passée que déjà Bush a dit j'envoie 20 000 soldats supplémentaires. Le délégué iranien en Irak, c'est-à-dire, c'est un Irakien, mais il est soudoyé par les chiites, il est pour les Iraniens, déjà a dit c'est dommage qu'il n'envoie que 20 000, il leur dit 200 000. Comme ça, on les liquide tous, on fera encore un peu mieux. Le jour où Ahmadinejad, on lui fait sauter sa bombe atomique, c'est un fou. Les chiites sont prêts à se donner la mort pour Allah. Mais pourquoi faire qu'une se donne la mort? Allons-y, 80 millions. Ils vont rentrer en Irak. Et d'Irak à Israël, combien de temps ça prend? 24 heures de route. Aller à pied une semaine. Alors, t'as Tzaha, mais t'as 80 millions de femmes, d'enfants, de chevaux, d'ânes. Hein, la djihad. Pardon? Mais tu vas envoyer. Tu vas envoyer tes avions tuer des civils.
Mais j'attends que les civils aient bouffé mes gosses.
Je ne sais pas. Je ne sais pas.
En vrai, rien d'autre, on l'a vu sur le bouton et c'est fini.
Je pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'Israël puisse faire une chose pareille. Envoyer une bombe atomique sur 80 millions de civils.
Une bombe atomique, mais des bombes tactiques, ça serait bien.
Bon. Est-ce qu'on peut les appeler encore des civils quand ils viennent pour tuer?
Ils sont pas des soldats. C'est pas la même chose.
Mais encore, de nos sens, on appelle les civils, on retire les bases et on fait tout
son. Ils viennent renforcer la population palestinienne dans le coin. Écoute, je ne suis pas prophète, je ne sais pas. Je te dis ce qui est marqué.
Et si l'Iran envoyait une arme massive sur Israël?
Je ne suis pas prophète. Ce qui est marqué, c'est comme ça. Rashi. Shensus Madai Ochel Boteven, que tu n'as pas un cheval med qui mange du foin. On parle des cercueils qui sont en terre d'Israël. Shemotzin Aronot, car ils vont sortir les cercueils, Khutsakarka hors de la terre, Vosin Mehen et Vosin, ils en font des mangeoires, le Mehemet Gogumagog, dans la guerre de Gogumagog. Gogumagog, c'est donc la dernière guerre qu'il y a avant que le Mashiach, pendant laquelle le Mashiach doit se dévoiler. Shen Koldekel Vechule, car tu n'as pas de palmiers, etc. Kelomar, c'est-à-dire, je vous lis Rashi, écrit il y a 900 ans. Atidin, Paras, Vemadai, Lavo, Al-Bavel, dans le futur. Paras et Madai, c'est donc l'Iran actuel, vont conquérir Bavel, Babylonie, l'Irak. Vitmal'a, Kol Eretz, Bavel, Chelot, Parsiim, Vesusem, et va être remplie toute la terre d'Irak des armées perses et de leurs chevaux. Umisham, et de là-bas, Ba'im, l'Eretz Israël, ils vont venir en terre d'Israël, Velokdimota. Elles vont la conquérir, Mazal Tov. Et là, il faudra prier, messieurs. Pas les
B-52.
Après,
vous prenez pour les B-52, c'est bien.
Je ne sais pas comment Dieu va faire, mais on sait très bien qu'à la fin, le seul qui pourra nous sauver, c'est Dieu. Dieu va faire en sorte qu'on sera bloqué. Comment va faire, je ne sais pas, je ne suis pas prophète. Mais c'est marqué clairement dans les textes que seulement ceux qui vont crier à Dieu seront sauvés. Et c'est ce qu'on devra faire. Dieu fera en sorte qu'on n'aura pas le choix. Est-ce que ce sera la bombe atomique qui sera en vol? Est-ce que... J'ignore, je ne suis pas le bon Dieu. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Maintenant, la question que pose Thierry, parce que là, je suis censé parler de Tour écartant, on s'est écarté du sujet. Et la mission d'habiter la terre d'Israël. Ils viennent du Nord. C'est marqué dans le texte clairement. La question que j'ai posée moi-même, Orbi Tzon Abba Shaoul, il y a 16 ans. Kvodarav, c'est marqué qu'ils viennent du Nord. Maintenant, ils ne vont pas arriver du jour au lendemain. Ça prendra au moins 24 heures. Moi, qu'est-ce que je fais à réflexe quand ils viennent du Nord? Je prends ma bagnole, je vais vers le Sud. Bercheva, Elat, Nueba, Ras Mohammed, Charmachar, c'est tout dans Sinaï, là-bas. Ils viennent me chercher là-bas. Alors, qu'est-ce que je fais? Je pars ou je reste? Il parlait très peu à Ben Sion. Il ne m'a pas répondu avec la bouche, avec le doigt, il a fait comme ça. Ça veut dire, on reste ici. Alors, c'est un cas spécial. Je ne sais pas. Est-ce que c'est une halakha que je peux dire maintenant, il faut faire comme ça? Il m'a dit. Je ne sais pas. Je ne prends pas de responsabilité en cas où ça arrivera. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. En tout cas, il semblerait, d'après les textes, c'est marqué, je crois que c'est marqué dans Yoël, c'est marqué que à Jérusalem, tout le monde sera sauvé. Obé, Har Sion, Tiefleta. Sur le mont de Sion, tout le monde sera sauvé.
C'est-à-dire, c'est quoi?
C'est ça va, Yerushalayim, c'est tout. Ouais, c'est Yerushalayim, Bezrat Hashem. Tov, ça c'est pour Gog ou Magog. Maintenant, au niveau de la halakha stricte, s'il y a un danger de mort, pourquoi nous restons en terre d'Israël aujourd'hui? Parce qu'il y a une grande mitzvah. Lorsqu'ils ont rendu Gouche Katif, beaucoup de religions ont créé, comment on ose rendre une partie de la terre d'Israël? Il faut savoir, Gouche Katif, c'est Gaza. Est-ce que c'est Israël ou non? C'est une discussion. C'est pas clair. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Le fait qu'on rende Gouche Katif n'est pas, si c'est bien ou pas bien, n'est pas d'après le critère, est-ce que c'est la terre d'Israël, on doit le rendre ou pas? Ce n'est pas du tout une question d'habiter ou non la terre d'Israël. La question, elle est, est-ce que du point de vue de la sécurité du peuple d'Israël, est-ce qu'il est conseillé, légitime, juste de rendre Gouche Katif ou pas? C'est une question qui n'est pas une question des rabbins, c'est une question des stratèges, des généraux. Tu es 5-6 000 âmes juives, une sorte d'enclave parmi 1 million et bientôt 2-3 millions d'Arabes, est-ce que c'est stratégiquement conseillé ou déconseillé? L'État d'Israël a dit, c'est déconseillé. Mieux vaut maintenant qu'on se retire. Comme ça, s'ils nous envoient encore des missiles, on peut leur rentrer dedans de façon efficace. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on ne le fait pas? Je ne sais pas. Mais le critère ne doit pas être, ce n'est pas un critère religieux. C'est un critère de défense, ou du point de vue de la défense du peuple juif. Et tu vas demander maintenant des rabbins, ils diront la même chose. Est-ce que nous devons maintenant habiter la terre d'Israël, oui ou non? Est-ce que c'est nous qu'on a habité tous en Amérique? La question, elle n'est pas mitzvah d'habiter en terre d'Israël. C'est une mitzvah, c'est une mitzvah. Mais par rapport à la, si on aurait hypothétiquement le choix entre quitter la terre d'Israël pour sauver tous les juifs, ou habiter la terre d'Israël et on perdrait la vie d'un seul juif, la réponse, elle est directe. On quitte tous la terre d'Israël. La question, elle est tout à fait différente. Elle est, où est-ce que je suis plus en sécurité? Où est-ce que j'ai plus de risques à long terme? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plus de morts en Israël qu'à l'étranger. Mais à long terme. À long terme, où sommes-nous plus en danger? En Israël ou à l'étranger? Il semblerait, on n'est pas prophète, que c'est à l'étranger. La Révélation ne dit pas comme ça. Il dit aujourd'hui, partout on est en danger, soit ici ou là-bas. Donc, tant qu'à faire, soit en Israël, parce qu'il y a une mitzvah très grande. Je continue, Maïmonide. On finira après sur Netour et Karta. Et bien qu'il soit permis de quitter pour les raisons susmentionnées, Enam Midat Chassidut, ce n'est pas une mesure de piété. Car nous voyons que Mahlon et Chilion, c'est les deux fils de Eliezer, les deux fils de Naomi, la belle-mère de Ruth, à Moavite. Shnei Gdolei Hadorayu étaient les plus grands rabbins de la génération, les deux plus grands rabbins de la génération. Mais peut-être Sarah Gdolei, à cause d'une grande détresse, Yatsu, ils ont quitté la terre d'Israël. Il y avait la grande famine ici. Le point de vue de la loi stricte, ils avaient tout à fait dans leur droit de quitter la terre d'Israël. Néanmoins, Nitraevu Klaya Lamakom, ils ont été passibles de mort par Dieu. Dieu les a tués. Pourquoi? Parce qu'un type de calibre pareil, comme Mahlon et Chilion, c'est vrai, vous êtes en état de famine terrible en terre d'Israël, mais tu quittes la terre d'Israël, c'est pas une mesure de piété. Les grands sages, Ayoum et Nashkim, embrassaient les frontières d'Israël quand ils arrivaient. Ou Menashkim avait embrassé leurs pierres et se roulaient dans la poussière, dans le sable de la terre d'Israël. Comment font les juifs actuels? Ils rentraient, encore j'en arrive, un élève qui est arrivé cet été, il est arrivé, il s'est baissé par terre, il a embrassé la terre. Et il a raison. Le rave. Je crois que le rabbi Meïchadash ou le rabbi Elulapian, il dit, regardez, quand on est arrivé, on marchait sur la terre sainte. Aujourd'hui, on ne se gêne pas de cracher par terre. Il a parlé sur lui-même. Comment on s'habitue à être dans les états de... Dans le palais du roi, la première fois que tu rentres, tu vas sur le bout des pieds. Qui est depuis un an? Tu marches déjà plus sur le bout des pieds. Tu mets même du bruit. On est habitué à cette terre. Mais ce n'est pas dire qu'elle est moins sainte, elle est sainte. Il y a une mitzvah énorme. Le Talmud dit, traité Ktubot. Il y a une page entière que je conseille de lire. Passons, je n'aurai pas le temps de la lire en entier. Mais là-bas, je vous lis un passage intéressant. Il y a un monsieur qui vient voir le Rav. Il lui dit comme ça. « Yahou Gavra, cette personne, de Nafla le Yebama Bechouza'a, lui est arrivé un cas de Lévira. » Ça veut dire que son frère est mort sans avoir laissé d'enfant. À l'époque, il fallait se marier avec la femme veuve pour amener une descendance au frère qui était mort. Mais lui habitait la terre d'Israël, le vivant, le frère mort était mort à l'étranger. Et la femme, comme elle, la Yebama, avec qui il devait faire le Livera, donc se marier avec elle, habitait l'étranger. J'allais voir Rabbi Hanina, est-ce que j'ai le droit maintenant de quitter la terre d'Israël pour aller faire cette grande mitzvah qui est de la Torah de Lévira? À Marley, il lui a répondu. Achiv Nasa Kutit. Son frère s'est marié avec une Goya. Oumet. Et il est mort. Baouh Hamakom Sharago. Béni soit l'Éternel qui l'a tué. Vous irez d'Acharab et lui demande d'aller après lui.
C'est une Goya.
C'est une Goya. On ne comprend pas. Si c'est une Goya, il n'y a pas de mitzvah de Lévira. Lévira, c'est qu'elle est juive. Alors elle est Goya ou elle est juive? Et on bénit qu'elle est morte. Qu'il est mort. Et c'est que le Maharsha, c'était une juive. Mais le Rav dit ici, vu qu'elle habite étranger, c'est comme une Goya. Et lui, maintenant, il veut aller donc à l'étranger. Il sort avec une Goya et bénit Dieu qu'il a tué son frère qui habitait l'étranger. À quel point c'est grave? Rashi, Nachmanide, ici la Gemara le dit. Tous ceux qui habitent la terre d'Israël, c'est comme s'il n'a pas de Dieu. Et c'est comme s'il est, en fait, c'est comme s'il est idolâtre. C'est comme si. C'est comme si. Alors c'est pas vraiment comme ça. Je ne vais pas maintenant aller, si c'est comme ça, alors je vais aussi à l'église. Non. Mais c'est comme. Il y a un aspect. La Kabbalah mystique juive va dire, quand tu es à l'étranger, tu es dans le domaine du mal. Donc même quand tu fais une mitzvah, tu nourris le mal. Il y a une partie qui va au bien, mais une partie qui va aussi au mal. Ici, en terre d'Israël, toutes les mitzvahs vont complètement au bien. Donc pour répondre à votre question, M. Gazdian, grand mérite d'habiter à terre d'Israël. Maintenant, qui mérite? Qui mérite? J'ai peu de temps pour en parler. Ah, en vraiment hyper bref, pourquoi on est parti en exil? On était en terre d'Israël. Le premier homme a péché, alors les étincelles de sainteté ont été éparpillées dans le monde entier. Le job du peuple d'Israël, c'est ramener ces étincelles de sainteté à la divinité. Le peuple d'Israël avait le calibre spirituel suffisamment puissant pour, depuis la terre d'Israël, arriver à expirer à distance toutes les étincelles de sainteté qui avaient éparpillées dans le monde entier. Vu que le peuple d'Israël a baissé de niveau spirituel, ils ont fait des péchés ici en terre d'Israël, ils n'avaient plus la capacité d'aller à distance d'aspirer ces étincelles de sainteté. Donc, ils ont été, entre guillemets, punis, il n'y a pas de punition, il y a un job à faire. Ils devaient aller sur place. C'est pour cela que deux choses vont arriver qui sont très symptomatiques de l'exil juif. Les juifs seront éparpillés dans le monde entier. Sur le monde entier, il y a des étincelles à récupérer. Deuxièmement, ils vont être expulsés d'un pays à l'autre. Parce que tu vas en Tunisie, t'as aspiré, dégage. Tu vas à Paris, après tu vas en Angleterre, en Espagne, évacuer Russie, évacuer comme ça, sans cesse. Et très souvent, après qu'il y a une aspiration d'étincelle de sainteté, on verra que le pays qui nous a évacués, il y a une grande dépression, parce que l'étincelle de sainteté, c'est ce qui fait vivre le pays. Maintenant, au niveau personnel, c'est la même chose. Quelqu'un veut venir en Israël. Il veut, il peut, il n'arrive pas. Il y a des empêchements. Dieu veut qu'il reste là-bas. Pourquoi? D'habitude, il a encore des étincelles de son âme propre qu'il doit encore amener. Il n'a pas fini son job d'exil. Arrivé en terre d'Israël, il faut un mérite. Quoi? Et l'expérience a montré. Quand je fais des séminaires en France, on pourrait actionner tout l'impact qu'il y a. Venez en Israël. Ça ne sert pas à grand-chose. Tout le monde veut venir en Israël. Tout le monde rêve quelque part. Ils ne peuvent pas. Qu'est-ce qu'on fait? On leur dit, commence à faire cache-route. Commence à moins fréquenter les filles. Pas du tout. Commence à faire Shabbat. C'est ce que je dis moi, qui n'est pas d'erreur, d'accord? Être tsanoua, que les filles s'habillent comme il faut, etc. Automatiquement, en quelques temps, la personne, elle ne peut plus vivre en France. Elle ne tient plus le coup. Elle devient chômage, Shabbat, tout ça. Il se sent asphyxié là-bas. Et comme sur un nuage, il est la terre le vomit. La terre de France le vomit, il arrive ici. Et d'autres qui veulent tellement, ils n'arrivent pas. Ce n'est pas dans tous les cas comme cela. Des fois, des gens, même très religieux, restent en France. Mais néanmoins, le meilleur moyen de favoriser une alliance en Israël, c'est par... Au niveau mystique, et au niveau psychologique, social aussi, mais au niveau mystique, c'est par l'application rigoureuse des lois de la Torah qui font que tu récoltes rapidement toutes tes étincelles de sainteté et tu montes en Israël. Donc effectivement, c'est un mérite. C'est marqué celui qui fait 4 pas en terre d'Israël en Tshuva, alors il a appelé tzadik, on lui pardonne tous ses péchés. Il a fait 4 pas en Israël. C'est une mitzvah d'habiter ici. Une seule mitzvah qu'on fait avec le corps entier, habiter la terre d'Israël. Ça et la mitzvah de Souka. J'aimerais finir avec Netour et Karta. Donc, qu'on soit Netoura, Karta ou Satmar, on ne peut pas ne pas accepter la mitzvah qu'il y a d'habiter en terre d'Israël. Le problème, il est tout à fait autre. C'est que l'État d'Israël est un État qui est basé sur des bases laïques, socialistes, athées. Nous, en tant que juifs religieux, ne pouvons pas accepter que l'État d'Israël, dans son optique laïque, éduque le peuple d'Israël à ne pas être religieux. Parce que nous savons que l'avenir, l'éternité du peuple d'Israël ne peut passer que par l'application de la Torah. Alors nous voulons que le peuple d'Israël continue, et en Israël. Nous sommes pour une coloration beaucoup plus religieuse, beaucoup plus orthodoxe de l'État d'Israël. Dans cette mesure-là, Satmar et Netura Karda sont extrêmement opposés à l'optique laïque. Mais ils ne peuvent pas être opposés au fait d'habiter en Israël. Preuve en est qu'il y a ici des communautés très florissantes de Satmar et de Netura Karda en Israël. Et pour prouver qu'ils sont des grands amoureux de la terre d'Israël, je me souviens, c'était dans les années 80. C'est après la guerre de la paix pour la Galilée, donc Israël était implanté au Liban. Les Palestiniens à l'époque ont pris une voiture piégée. Ensuite, c'est un des premiers cas d'attentat suicide. Ils sont rentrés dans le quartier général israélien. Ils ont donc franchi la barrière. Ils sont rentrés à l'intérieur et la voiture a explosé et un bâtiment entier s'est écroulé. Il y a eu 90 morts. Eh bien, Satmar, les seuls au monde, Satmar, ont décrété 3 jours de jeûne consécutifs. Les amoureux du peuple d'Israël. Moi, je n'ai pas fait. D'autres ne l'ont pas fait. 90 morts, ok, 90 morts. La vie continue. Eux, ils ont jeûné 3 jours. Qui fait ça pour le peuple d'Israël? Maintenant, il y a une bande de cinglés, un ou deux, deux, trois familles, des fous, j'ose pas dire presque criminels, qui vont à l'assemblée négationniste de Ahmadinejad en Iran, qui embrassent sur la bouche, on m'a raconté, Ahmadinejad. C'est des maboules. C'est des maboules. Des cinglés, complètement cinglés. Alors, le problème, au grand bonheur des médias anti-religieux, ils sont habillés comme nous. Chapeau, barbe, période pour ceux qui en ont, d'accord. Donc, on peut faire la confusion. Et les médias anti-religieux mettent ça sur piédestal. Ah, regardez le religieux, comme ça. Toute personne qui ne connaît pas très bien la différence qu'il y a entre eux et nous se dit, ah, si lui est comme ça, lui aussi il est comme ça. Preuve en est qu'ils sont habillés la même chose. Ces personnes-là ont été excommuniées. On m'a dit hier que même sa femme l'a quitté parce qu'il ne peut pas supporter encore toute la honte qu'on lui fait. Il paraît que quelques tonnes d'œufs ont été jetées sur sa maison. Cette personne-là est un cinglé, inutile de le dire. Je le dis pour ceux qui croiraient que non. Simplement, les médias anti-religieux sont contents de l'aubaine qu'ils ont, qu'enfin on peut taper un peu sur le religieux parce que disons, ils sont anti-État d'Israël. S'il y a un anti-État d'Israël, ce n'est pas contre l'État. L'État, il est là. Et l'État protège les Juifs. Donc on ne peut pas être contre, c'est manifeste, c'est une chose manifeste. Qu'est-ce qu'on peut être contre? Et nous sommes contre. Je suis contre, et tous les gens qui ont un peu de tata, l'optique laïque de l'État. Parce que l'État va à sa fin. À une époque, j'ai un soldat maintenant qui a quitté l'armée, qui est venu ici à l'Eshiva. Il vient d'une unité de combat très très... les commandos, tout ça. Il y a 20-30 ans, qui étaient les soldats dans ces unités de commandos, les kibbutz nekim laïques, socialistes, gauchistes? Il m'a dit, c'est fini. C'est fini. La majorité des sections de combat les plus performantes de l'armée, ce sont des religieux. Parce qu'ils ont une motivation. Un bon soldat est un soldat qui est motivé. Il y avait 30 ans, l'idéal sioniste laïque. On a souffert à l'étranger, on revient maintenant en terre d'Israël pour créer notre État. Ok, ça a tenu. Combien de temps ça a tenu? Un Israélien aujourd'hui non pratiquant, de quoi il rêve? Il finit son armée, il va le tour du monde, en Thaïlande. Fumer un peu. Hein, c'est ça, très souvent. Moi, quand je suis arrivé, il y a 25 ans, j'ai fait l'armée en Israël, on m'a pris pour un cinglé. T'étais en Suisse, t'as tout ce qu'il fallait. Tu viens ici faire le crétin. J'étais idéaliste. On me regarde comme un fou. L'idéal sioniste laïque, il est mort. Le seul endroit où il n'est pas encore mort, c'est en France. T'as encore des gens qui y croient, d'accord? Mais ça ne tiendra pas longtemps. Il y a un autre idéal beaucoup plus grand. On a une terre, c'est bien. Mais pourquoi? Pour y mettre une âme, un sens, la Torah. Et ceux qui ont compris cela, ce sont les meilleurs soldats d'Israël. Donc j'ai répondu pour Netura Karda, c'est clair. Il y a les vrais et les faux. J'ai parlé pour le Strout, c'est un grand mérite d'être en Israël et nous ne saurons pas comment trop pousser les Juifs à y venir, mais intelligemment. Celui qui n'a pas de moyens de subsistance ici, celui qui n'a pas un cadre social où les enfants vont, c'est très dur ici, c'est dangereux, parce qu'on est entre Juifs, à l'étranger, il y a les non-Juifs, donc on a encore des barrières, on sait, eux, il y a nous. Mais quand on est en Israël ici, on est tous entre Juifs, donc rapidement, on perd des gens qui sont légers en Torah, ici, ils perdent leur médecin, on est tous entre Juifs, alors pourquoi Shabbat, pourquoi Kashrout, chaque fois que c'est marqué Kasher, on peut manger, on croit que c'est Kasher. Les Israéliens, hélas, sont des grands magouilleurs. Ils savent que quand ils mettent cachère, ça se vend mieux. C'est pas cachère quand c'est marqué cachère. C'est pas cachère du tout. On espère que quand c'est cachère, avec tous les tampons les plus sérieux, on espère que c'est cachère. D'accord ? Mais quand c'est cachère, j'ai vu une fois, Kashrout, Rabbanout, Jéricho. Vous connaissez ça, Rabbanout Jéricho ? Et les gens tombent dans le panneau. Bahou Adonai, Elohim Amen.